bienvenue dans 300 secondes de crime, une série d'épisodes hebdomadaires qui font partie du podcast Contre-enquête. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le parcours surprenant de Victor Lustig, l'escroc de génie qui a vendu la Tour Eiffel non pas une, mais deux fois. Voyons ensemble comment ce maître de la supercherie a dupé ses victimes qui pensaient faire une bonne affaire, allant même jusqu'à tenter d'arnaquer le célèbre gangster Al Capone. Avec la vie de Victor Lustig, nous allons découvrir les multiples facettes de cette étrange carrière criminelle, marquée par des arnaques audacieuses et un nombre impressionnant de changements d'identité. Car de ses débuts modestes à son ascension en tant que l'un des imposteurs les plus notoires du XXe siècle, Victor Lustig a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire du crime. Au début du XXe siècle, les sociétés occidentales, fascinées par le progrès et l'innovation, étaient prêtes souvent à croire aux inventions les plus incroyables, livrant aux escrocs et arnaqueurs en tout genre un public naïf et crédule. Les années 1920 et 1930, marquées aux États-Unis par la Prohibition et la Grande Dépression, engendrées par le krach boursier de 1929, ont vu aussi la montée de figures criminelles particulièrement légendaires et d'escrocs de haut vol, car à cette époque difficile, la corruption et la criminalité étaient devenues pour certains l'unique solution pour subsister. Les avancées technologiques, notamment dans le domaine de la communication et du transport, ont facilité les voyages à grande distance, élargissant le terrain des activités criminelles de certains. C'est dans ce contexte complexe et tumultueux que Victor Lustig a inventé ses arnaques, profitant de la cupidité autant que de la naïveté de ses victimes pour construire sa légende. Lustig est né en 1890 dans ce qui est aujourd'hui la République tchèque. Il parlait plusieurs langues et a commencé sa carrière d'escroc en arnaquant les gens dans des parties de cartes pendant des voyages sur des paquebots. Durant sa carrière d'escroc, cet homme élégant et persuasif, doté d'une intelligence exceptionnelle, a su se faire passer pour un noble, un homme d'affaires ou encore un ingénieur selon les besoins. C'est en 1925 que Victor Lustig a orchestré l'une de ses plus audacieuses arnaques, la vente de la Tour Eiffel. Profitant de l'après-guerre et de la confusion entourant la maintenance des monuments parisiens, Lustig a fabriqué de faux documents gouvernementaux et s'est fait passer pour un fonctionnaire. Comme souvent, l'escroc s'appuie alors sur des faits réels, puisque des articles dans les journaux font alors état du coût très important d'entretien que représente la Tour Eiffel quelques décennies après l'exposition universelle de 1889. Lustig a inventé toute son arnaque sur cette base et a invité six ferrailleurs à une réunion secrète, leur expliquant que l'État cherchait à vendre la Tour Eiffel en raison de ses coûts de maintenance prohibitifs. Mais selon Lustig, pour des raisons politiques, il fallait bien sûr que l'affaire se fasse dans la plus grande discrétion et rapidement. L'un des ferrailleurs, séduit par l'idée de posséder le monument iconique, a mordu à l'hameçon et a payé une somme rondelette pour l'acquérir. Et une fois qu'il a réalisé qu'il s'était fait avoir, le malheureux acheteur n'a pas osé déposer plainte de peur d'avoir l'air ridicule. Victor Lustig, probablement enhardi par la réussite de son premier coup, a donc tenté de vendre la Tour Eiffel une seconde fois. Après tout, il existait sûrement deux personnes assez crédules pour croire à ces histoires. Cependant, cette seconde tentative n'a pas abouti. Sa nouvelle cible, après avoir soupçonné la supercherie, a menacé de le dénoncer à la police. Lustig et son complice ont dû fuir précipitamment la France sans obtenir le paiement espéré. Il n'en reste pas moins que l'escroquerie réalisée avec une audace inouïe et un sens du théâtre incroyable est devenue légendaire. Mais Lustig ne s'est pas contenté de cette arnaque. Aux États-Unis, Lustig a approché Al Capone en sollicitant un prêt de $50,000 dont il promettait de doubler la somme par des investissements particulièrement rentables. Mais réalisant probablement qu'il jouait avec sa vie en tentant d'escroquer l'un des criminels les plus violents de son temps, Lustig est revenu voir Capone quelques temps plus tard avec les $50,000 initiaux, prétendant que son plan avait échoué. Impressionné par ce geste d'honnêteté, ce qui est un comble pour un escroc, Capone lui aurait alors donné $5,000 pour ses efforts. Voilà qui témoigne non seulement de la ruse de Lustig, mais aussi de son intelligence à faire face à une situation dans laquelle il aurait pu facilement perdre la vie. Et ces $5,000 ne sont pas le seul gain que Lustig a fait dans cette affaire, puisqu'on dit que c'est grâce à cette arnaque manquée qu'il a commencé à travailler avec la bande d'Al Capone en se livrant au trafic de fausse monnaie. Mais Lustig n'est pas un personnage ordinaire et il a inventé une autre arnaque reprise par de nombreux escrocs au fil du temps, la machine à dupliquer les billets. Il prétendait en effet avoir inventé une machine qui, grâce à un mécanisme spécial caché à l'intérieur, était capable de copier tous les billets de banque, en particulier les plus gros, évidemment. Après une démonstration, il proposait à sa victime de lui acheter la machine afin de pouvoir dupliquer lui-même ses propres billets et devenir ainsi millionnaire. Son astuce était simple puisqu'il lui suffisait de cacher dans la machine un billet identique à celui qu'il introduisait devant sa victime et qu'il présentait ensuite comme une copie. Les acheteurs, souvent des individus aisés et crédules, étaient éblouis par la promesse de richesses faciles. Cependant, une fois la transaction effectuée, Lustig disparaissait avec la vente, laissant derrière lui des victimes désemparées avec une machine inutile. Cette arnaque a bien entendu consolidé sa réputation en faisant de lui l'un des escrocs les plus imaginatifs de son époque. Recherché par la police sur plusieurs continents, Lustig se joue des frontières pour commettre ses crimes. Il utilise de nombreuses identités au moyen de faux documents contrefaits et il faudra de longues enquêtes menées des deux côtés de l'Atlantique pour finalement conduire à son arrestation. La notoriété de ses escroqueries avait en effet attiré l'attention des services de police, mais c'est son affaire de contrefaçon de billets de banque avec Al Capone qui va finalement conduire à sa chute. Les agents du service secret américain ont en effet commencé à enquêter sur un réseau de fausses monnaies qui inondait le pays, suivant une piste qui les a conduits directement jusqu'à Lustig. Parallèlement, en Europe, les autorités françaises n'avaient pas oublié l'affront de la vente de la Tour Eiffel et continuaient à recueillir des informations sur Lustig, espérant le capturer. La coopération internationale entre les agences, qui fait partie des premières du genre, a été assez cruciale pour suivre les mouvements de Lustig, qui utilisait ses multiples identités pour se déplacer et commettre ses crimes. Finalement, Lustig a été arrêté en 1935, les forces de police mettant ainsi fin à une incroyable série d'escroqueries qui avait marqué l'entre-deux-guerres. Après son arrestation, Victor Lustig a été jugé pour ses multiples crimes, principalement pour la contrefaçon de billets de banque, une accusation grave qui a attiré sur lui une attention considérable. Il est en effet accusé d'avoir mis en circulation plus de $2 millions de faux billets, ce qui est une somme énorme pour l'époque. Lors du procès, des preuves accablantes contre lui ont été exposées, mais Lustig, toujours éloquent et confiant, a tenté de se défendre avec son habituelle facilité à justifier l'injustifiable. Les charges étaient pourtant trop lourdes et il a été reconnu coupable et condamné à 20 ans de prison, marquant ainsi la fin de sa carrière criminelle. Dans les années suivant cette condamnation, les efforts pour améliorer la législation et les pratiques de surveillance financière se sont intensifiés, en partie motivés par les leçons tirées de l'affaire Lustig. Emprisonné dans la terrible prison d'Alcatraz, Lustig est décédé le 11 mars 1947 d'une pneumonie quelques années après son incarcération. Ce récit est maintenant terminé. Cette histoire nous rappelle que derrière chaque arnaque et chaque escroquerie se cache une combinaison d'intelligence, d'audace et aussi de profonde compréhension de la nature humaine. Bien que les actes de Lustig ne doivent pas être excusés, ils inspirent une réflexion sur la vulnérabilité des individus face à la ruse et aux belles promesses, mais aussi et surtout sur l'avidité. L'affaire de la machine à billets illustre particulièrement comment l'appât du gain peut aveugler même les plus prudents. Les victimes de Lustig, souvent des gens aisés et avertis, se sont laissés séduire par la promesse de gains faciles et rapides. Cette cupidité, couplée à l'ingéniosité de Lustig, a créé un terrain fertile pour ses arnaques. C'était 300 secondes de crime. Je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de vous abonner au podcast Contre-enquête sur Apple Podcasts ou Spotify et évidemment de mettre des commentaires et des étoiles.